Bonsoir. Un inconnu sacré l'homme le plus rapide au monde sur 100 mètres. L'Italien Lamont Marcel Jacobs succède à Usain Bolt sur l'épreuve reine des JO. Tout ce qu'il faut retenir de cette 10e journée olympique dans Intersport avec Alexandre Berthaud. Une athlète bélarusse forcée de quitter la compétition. L'or pour les fleurettistes français. Clarisse Agbegegnou toujours sur un nuage après son double titre en judo. Jean-Baptiste Lemoine, le secrétaire d'État au tourisme, également hors sol. Il espère 50 millions de touristes étrangers en France. Les professionnels du secteur sont beaucoup moins optimistes. Soutien des pharmaciens de l'Hérault après l'agression hier de l'un d'entre eux à Montpellier par les antipasses sanitaires. En Turquie, évacuation par la route ou par la mer de touristes et d'habitants de Bodrum. Opération sauve qui peut contre les incendies au sud du pays.
France Inter.
Outsider dans les starting blocks et 9 secondes 80 centièmes plus tard, le voici, roi de l'épreuve la plus prestigieuse des Jeux Olympiques. Moins de 10 secondes pour devenir le successeur d'Usain Bolt, l'homme le plus rapide sur 100 mètres, le sprinter italien Lamont Marcel Jacobs, ou la plus grande surprise de ces Jeux, surprise et émerveillement pour des journalistes italiens témoins d'un exploit historique. À Rome, la correspondance d'Olivier Tosseri.
L'Italie est fière du sacre de Marcel Jacobs, un événement sportif rare puisqu'il faut remonter à 1992 pour voir un Européen remporter l'épreuve emblématique des Jeux Olympiques. Le présentateur italien de la course exulte.
Marcel Jacobs, champion olympico, numéro 79, numéro 79, un million encore, un record européen, una giornata che sarà nella storia dello sport italiano.
Une journée qui entrera dans l'histoire du sport italien. Jamais un de ces athlètes ne s'était qualifié pour une finale d'une course de 100 mètres en 125 ans d'histoire des Jeux Olympiques modernes. Marcel Jacobs est né il y a 26 ans au Texas d'un père américain et d'une mère italienne. Les messages de félicitations de l'ensemble de la classe politique et de toutes les légendes sportives italiennes affluent pour lui rendre hommage. L'homme le plus rapide du monde est italien, titre avec orgueil tous les médias de la péninsule. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Et puis on va développer cette page sport avec vous, Alexandre Berthaud. D'abord une question, qui est cet Italien successeur de Bolt ?
Lamont Jacobs, donc il est arrivé à Tokyo avec un rêve, celui d'accéder à la finale. Parfois la réalité dépasse les rêves. Fanny Lechevestrier, en 9 secondes 80, il est passé d'anonyme à star mondial.
Lamont Jacobs, 26 ans, la sensation de ce premier week-end d'athlétisme. Lamont Jacobs, inconnu du grand public en début de semaine, mais qui depuis hier affolait déjà les réseaux sociaux. Alors non pas pour ses performances, mais pour son look avec ses tatouages et écritures sur les bras et le cou que tout le monde essaie désormais de déchiffrer. Il y a ses bijoux aussi, une chaîne et un bracelet en or et diamant dont il ne se départit jamais, même pas donc pour courir une finale olympique. L'athlétisme mondial se cherchait un successeur charismatique après le triple champion olympique Usain Bolt. Elle tient peut-être donc déjà sa nouvelle figure. L'Italie va en tout cas très vite s'emparer de son histoire. Lui, l'enfant né à Del Paso, au Texas, arrivé en Lombardie à l'âge de 2 ans après avoir été abandonné par son père. Et aujourd'hui, premier Italien de l'histoire, sacré champion olympique du 100 mètres, premier Européen à remporter ce 100 mètres olympique depuis Linford Christie en 1992. Et dire qu'en mai dernier, il n'avait encore jamais couru sous la barre des 10 secondes. Au stade olympique de Tokyo, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Lamont Jacobs au cœur des spéculations aussi, parce qu'en une seule journée, l'Italien a quand même battu 2 fois son record personnel pour aller chercher cette médaille d'or. Record d'Europe, 9,80. En demi-finale, le record d'Asie était tombé. Sur les autres courses également, des performances qui s'expliquent en partie par le progrès technologique, selon Stéphane Caristan, ancien athlète olympique français.
Forcément, on ne peut pas ne pas penser à l'avancée technologique due aux chaussures. On l'a vu sur route l'année dernière avec des records du monde et on le voit maintenant avec une piste rapide et des records à l'appel, des niveaux de performance qu'on n'a jamais vu hein, en demi-finale du 400 mètres haies. On n'a jamais vu 6 athlètes en moins de 48 pour se qualifier en finale et il y en avait eu un sur toutes les histoires des Jeux Olympiques. Donc vous voyez qu'on a des densités de chrono, on n'avait jamais vu autant de personnes en moins d'une 46 sur 800 mètres et toutes les disciplines sont comme ça avec une densité de performance extraordinaire et forcément on ne peut pas omettre que les chaussures, les nouvelles technologies, chaussures carbone et mousse, soit étrangère à cette performance.
Stéphane Caristan, après cette journée olympique d'athlétisme faste pour nos voisins transalpins, en plus du 100 mètres, l'Italie a remporté le saut en hauteur.
Et ça a donné lieu à une des images les plus fortes de cette Olympiade.
L'Italien Tamberi et le Qatari Barchim étaient ex aequo, ce qui normalement donne lieu à un tie-break. Mais l'arbitre a laissé le choix aux deux athlètes. Ils se sont regardés, ils se sont serrés la main. Et puis l'Italien s'est jeté dans les bras du Qatari. Les deux obtiennent l'or à égalité donc de cette journée d'athlétisme. On retiendra aussi un record du monde, celui de Yulimar Rojas au triple saut alors qu'elle était déjà assurée de la médaille olympique 15 mètres 67 pour la Vénézuélienne.
Et le temps fort de la journée côté français, c'est une nouvelle médaille d'or en escrime.
Le fleuret par équipe contre la Russie. Il était environ 14h en France.
Allez, c'est reparti. Peut-être pour la touche ultime. Oui, 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 ils sont champions olympiques. Et ben voilà, Erwan Le Pichou qui offre la médaille d'or à cette équipe de France de fleuret. Sacrée championne olympique. La cinquième médaille de l'escrime française sera en or. Bravo.
Xavier Monferrand au moment de la touche finale d'Erwan Le Pichou, champion olympique de fleuret par équipe avec Enzo Lefort, Julien Mertin, Maxime Potti. Ils avaient tous fait chou blanc en individuel. À Rio, ils avaient été battus en finale par les Russes. Ils ont donc pris leur double revanche, dit Brice Guillard, champion olympique en 2004 à Athènes.
Moi, je suis très heureux d'avoir retrouvé l'escrime française sur l'équipe parce que c'est une grosse, grosse force de nos tireurs de réussir à converger et se mobiliser pour aller chercher ensemble des titres. Au-delà de ces quatre tireurs, au fleuret, il y a tout un groupe. Il y a des générations 2024 au fleuret qu'on connaît pas encore. Ça fait plaisir de retrouver l'escrime en grand pourvoyeur de médailles olympiques. Je pense que c'est de bon augure aussi pour les Jeux de Paris en 2024, parce que on a vu aussi des pépites, bah voilà, éclore, et de quelle manière, hein, avec Romain Cannon à 24 ans devenir champion olympique à l'épée. Et puis voilà, moi je leur souhaite aller peut-être une médaille de plus en 2024, une par arme.
6, donc objectif 6, médaille pour l'escrime française de Brice Guillard qui était au micro de Jérôme Cadet. L'or pour les fleurettistes, donc l'argent plutôt la nuit dernière pour Florent Manaudou sur 50 mètres nage libre. Un exploit, être médaillé sur 3 Olympiades différentes. Manaudou médaillé à Londres, à Rio, devenu ensuite handballeur. Il est revenu à la natation et cette pause loin des bassins, il dit qu'elle lui a permis d'apprécier encore plus cette médaille d'argent.
Avec mon arrêt, en fait, je me suis rendu compte que c'est des choses incroyables à vivre. Mais j'ai eu une vie, entre guillemets, normale, à regarder les compétitions à la natation, à la télévision ou à les commenter. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est cool, on s'en rend pas compte. Tant qu'on fait pas un peu le bilan, j'ai eu la chance d'arrêter et de pouvoir faire le bilan. Et voilà, c'était ouf de pouvoir vivre vraiment l'instant présent. C'est la première fois pour moi et je kiffe vraiment.
Florent Manaudou, donc à la sortie de 150 mètres nage libre en argent, deuxième, car le premier, il était intouchable. Il est sans conteste le champion de cette quinzaine olympique pour le moment. Caleb Dressel, américain, a remporté 5 médailles d'or, Jérôme Val.
Caleb Dressel est un stakhanoviste de la natation. Cette semaine au centre aquatique de Tokyo, il a nagé tous les jours. Il a dû cravacher sur chaque finale pour réussir le pari fou qu'il s'était lancé, repartir du Japon avec 6 médailles d'or. Mission pas tout à fait remplie puisqu'un seul titre lui échappe, mais l'Américain a assumé son statut en réalisant notamment un triplé historique: 50 mètres nage libre, 100 mètres nage libre, 100 mètres papillon, en battant au passage le record du monde de la distance. Et ce matin encore, au bout de l'effort, il a remporté ses deux finales sur 50 mètres nage libre et sur le relais du 4x100 mètres 4 nage, l'équipe américaine s'offrant là encore un record du monde. Après une telle moisson, Dressel pouvait enfin se laisser aller, chavirant dans un immense bonheur, lui qu'on ne peut pas rater autour des bassins, avec son immense tatouage qui lui mange tout le bras gauche. Désormais lesté de 7 médailles d'or, de 13 titres mondiaux, Dressel rentre dans l'histoire, loin encore de la légende Michael Phelps et de ses 23 titres olympiques, mais à 24 ans, Dressel marche dans les pas de son glorieux aîné. Tokyo, Jérôme Val, France Inter.
Caleb Dressel qui a envie de tout sauf de nager, explique-t-il après cette semaine folle.
Et oui Alexandre, les médailles olympiques, tout le monde ne les vit pas de la même manière.
Oui, on parle à l'instant donc du champion de la première semaine, Caleb Dressel. Écoutez maintenant la vision post-médaille de la championne française de cette première semaine, double médaillée d'or, la judoka Clarisse Agbenyenou. Sa vie post-médaille, c'est beaucoup de bonheur et beaucoup de sollicitations au téléphone.
Pour nous, c'est fou. Le Club France, on voit un peu tout le monde, on voit avec les regards, à travers les regards, qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire, on lit un petit peu nos messages. C'était que de France, du monde entier. Mais je vous remercie, merci pour tous vos beaux messages. Je suis désolée si je peux pas répondre à tout le monde, mais je vous dis merci de vive voix. J'ai la tête dans la lune, les yeux dans les nuages, je sais pas, je plane totalement. J'ai pas dormi, mais j'ai tellement le sourire, la banane, je me sens soulagée. Donc je pense que ça vaut mieux toutes les nuits, mais j'ai hâte quand même de rentrer et de retrouver mon lit, ma famille, mon chez moi, de leur dire regardez tout ce que j'ai vécu, de leur montrer des photos et puis leur montrer ces belles médailles.
Clarisse Agbenienou qui va rentrer en France avec double supplément bagage, elle l'écrit sur Twitter aujourd'hui. Les médaillés de la première semaine prennent en effet l'avion de retour en France, demain célébré au Trocadéro, village olympique installé face à la Tour Eiffel. Mais avant de monter dans l'avion, ils ont fait la fête. Farida Noir au Club France à Tokyo, et vous y étiez.
L'arrivée des athlètes réveille le Club France endormi. En haut de l'escalator, une aide d'honneur pour accueillir ces champions olympiques. Leurs bagages sont entassés en bas. Dans quelques heures, ils décollent. Les JO, c'est fini, alors ils décompressent. La petite enceinte de Guillaume Chen met l'ambiance et dans la main une bière pour le judoka en or.
Eh ben écoutez, on n'avait pas bu depuis 3 semaines et voilà, je pense que là il est temps de fêter, de relâcher un petit peu et de profiter de ce qui nous arrive. C'est quelque chose de magique et on va profiter de tous les instants.
Interdiction de faire la fête au village olympique, alors maintenant que les athlètes sont partis, c'est le moment de se lâcher et se détendre. Enfin sourit Jade Ulutul, championne de rugby à 7.
C'est aussi les vacances pour nous là, donc ça va être le moment de décompresser et de savourer cette médaille d'argent.
Mais à quelques heures du départ à la fête, se mêle aussi déjà la nostalgie pour la judokate Romane Dicot.
Forcément, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est là, mais bizarrement ça a quand même me manqué parce que c'est les Jeux, c'est spécial, on était ensemble et je pense qu'on va se manquer aussi en rentrant à Paris. Et oui, c'est sûr qu'on sera nostalgique des Jeux Olympiques parce que c'est des Jeux spéciaux, parce que c'est les Jeux où on a réussi à attraper cette médaille d'or par équipe.
Des médailles qu'ils célébreront toute la journée et toute la nuit pour les plus courageux dans l'avion. Arrivée prévue en France au petit matin.
Farida Noir au Club France à Tokyo pour France Inter. On espère encore évidemment des médailles d'ici dimanche prochain.
Alors qui est-ce qu'il faudra suivre d'ailleurs ?
On pense à Kevin Mayer cette semaine sur le décathlon, Renaud Lavillenie à la perche, plusieurs chances de médailles en canoë, kayak, sprint, en voile, en pentathlon moderne, en tir au pistolet aussi. Et puis demain, à suivre l'autre porte-drapeau français à part Clarisse Agbenienou, ils étaient deux, Samir Aït Saïd, il joue la médaille aux arceaux en gymnastique. On comptera également sur les sports collectifs pour remonter au tableau des médailles.
Et d'ailleurs, on connaît le programme pour la suite pour les sports masculins.
Les handballeurs affronteront le Bahreïn en quart de finale dans la nuit de lundi à mardi. Au niveau du volleyball, ce sera plus compliqué. Les Bleus devront affronter les champions olympiques en titre, les Polonais. Et puis en basketball, Rudy Gobert et les siens évitent leur bourreau espagnol au tirage au sort des quarts de finale. Les Espagnols qui les avaient éliminés à Londres en 2012, à Rio en 2016. Ce sera France-Italie, donc mardi matin, juste après un très attendu États-Unis-Espagne. On a parlé des sports collectifs masculins, car côté féminin, il faut encore assurer la qualification en handball. Handball et en basketball. Le handball cette nuit c'est France-Brésil, le basketball c'est France-États-Unis demain matin 6h40 en France.
Et en marge des épreuves, Alexandre, cet appel au secours de Kristina Tsimanouskaya, athlète bélarusse. La jeune femme de 24 ans qui devait disputer demain le 200 mètres a été emmenée de force aujourd'hui à l'aéroport de Tokyo. Elle devait être renvoyée dans son pays. Retour empêché de justesse, la championne envisage de demander l'asile politique à l'Autriche. Mais pour justifier de la décision d'un retour précipité, sa fédération l'a piégée, comme l'explique le journaliste franco-bélorusse Andrei Vaitovic. Il est interrogé par Martin Delacou.
Les entraîneurs de son équipe voulaient qu'elle fasse des distances qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Donc elle a fait cette vidéo sur son compte Instagram et depuis, on a vu une vague dans les médias officiels de la propagande qui l'a critiqué, qui disait que c'est une sportive qui n'est capable de rien. Et elle a eu la pression de la part de son équipe, de ses entraîneurs, qui essayent de la faire expulser du Japon vers le Bélarus. Elle ne veut pas, c'est contre son souhait. Et puis on a commencé à voir la diaspora bélarusse qui habite au Japon, qui s'est déplacée tout de suite à l'aéroport. Ils ont vu Kristina entourée par la police japonaise. Elle a dit que elle ne veut pas rentrer au Bélarus. Elle va demander l'asile politique en Europe.
Et puis Alexandre, la planète sport ne s'arrête pas de tourner hors JO. Un autre Français est monté sur la première marche du podium aujourd'hui. C'était en Hongrie pour le Grand Prix de Formule 1.
Un Français dans une voiture française avec un moteur français. Esteban Ocon sur Alpine Renault a évité les pièges de la course, nombreux pièges. Il a bien tenu ensuite pour créer la surprise devant Vettel et Hamilton. C'est sa première victoire en Formule 1 et la première de l'écurie Renault sous son nouveau nom, Jean-Pierre Blimaud.
Et oui, il y a eu la victoire de Pierre Gasly à Monza en septembre dernier, qui mettait fin à 24 ans de disette pour les pilotes français en Formule 1. Et 10 mois plus tard, c'est donc Esteban Ocon qui déjoue tous les pronostics en s'imposant à Budapest. Alors cette fois encore, il a fallu des circonstances de course. Il y a eu un gros accrochage dès le premier virage après le départ. Et puis Esteban Ocon a bénéficié aussi de l'erreur stratégique de Lewis Hamilton, le Britannique qui s'est arrêté 2 fois pour changer de pneu. Il était en tête, Esteban Ocon. Il a vu sur lui fondre Vettel, notamment 4 fois champion du monde. Et puis Lewis Hamilton qui a remonté un par un tous les concurrents puisqu'il était reparti en dernière position. Mais Esteban Ocon a résisté et s'est adjugé sa première victoire.
C'est incroyable, incroyable. On en discutait avec l'équipe que la prochaine meilleure place qu'on avait, c'était la victoire, forcément, parce qu'on avait fait 2e l'année dernière, mais on pensait pas que ce jour allait arriver maintenant. Ça a été parfaitement exécuté. Le départ, voilà, le choix des gommes au bon moment, on a réussi à garder Vettel qui était, je pense, un peu plus rapide que nous derrière. Voilà, c'est incroyable. Je pense que je réalise pas du tout, mais quel moment, je suis tellement heureux. C'est un truc de fou.
Alors, premier succès pour Alpine, le nouveau nom de l'écurie Renault cette année. Premier succès du constructeur français depuis Fernando Alonso en 2008. Et puis, Esteban Ocon aujourd'hui, c'est le 14e Français de l'histoire vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1.
Merci Jean-Pierre Blimaud. Et au-delà de la F1, les fans de foot en France vont avoir un œil sur le trophée des champions ce soir. Première coupe décernée de la saison PSG-Lille. Le match se joue à Tel Aviv. Coup d'envoi à 20h.
Merci Alexandre. 1137 malades du Covid sont aujourd'hui pris en charge dans les services de réanimation, soit 69 de plus qu'hier. Légère augmentation aussi du nombre d'hospitalisations liées à l'épidémie. L'indignation au lendemain de l'agression d'un pharmacien hier lors d'une manifestation d'antipasse sanitaire. L'homme a été injurié, puis la tente dans laquelle des tests anti-Covid étaient effectués juste devant son officine a été arrachée. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux, des faits inacceptables, dénonce Frédéric Abdekassis, le président du syndicat des pharmaciens. De l'Hérault, il répond à Clara Guichon de France Bleu Hérault.
Je suis profondément choqué par ces images, je suis profondément choqué par le fait qu'on puisse s'en prendre à des professionnels de santé qui œuvrent dans la lutte contre la pandémie en faisant des tests antigéniques, qu'on dégrade leur matériel, c'est une chose, qu'on les insulte en les traitant de collabos et d'assassins, c'est absolument inacceptable et inadmissible. Quand on voit la violence des propos et le fait que les gens qui manifestaient sont incontrôlables, on est tous inquiets au quotidien parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut venir chez nous et faire ce qui a été fait à Montpellier. On pense œuvrer pour le bien des patients et on se retrouve pris pour cible. Je pense qu'on a inversé les choses, quoi.
Et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a dénoncé des méthodes d'intimidation et de violence. En Martinique, où le taux d'incidence dépasse les 1000 cas pour 100 000 habitants, la nuit dernière, un centre de vaccination et une pharmacie ont été incendiés. Toujours dans le cadre d'affrontements à Fort-de-France entre manifestants anti-confinement et forces de l'ordre, 2 supermarchés ont aussi été pillés. Alors pour ceux qui continuent de respecter les gestes barrières, c'est port du masque en intérieur, voire à l'extérieur. Selon le ministère de la Transition écologique, 50 millions de masques sont donc utilisés chaque semaine. De quoi se poser la question de leur recyclage? La start-up Plaxtil et la société Essaimon ont installé dans plusieurs villes des boîtes pour collecter ces masques et elles les transforment en cendriers de plage, Morgane Moal.
60 masques usagés contre un cendrier de poche, c'est la promesse de l'entreprise Plaxtil. Des poubelles spéciales masques sont ainsi installées sur le littoral, dans des entreprises, des organismes publics ou des lieux de vacances. Olivier Civil, cofondateur de l'entreprise, nous explique cette opération.
On essaie d'avoir un double impact écologique, supprimer les masques, en tout cas les collecter depuis des stations de bord de mer, mais également en les transformer en un produit utile pour essayer d'éviter une autre pollution, celle des mégots.
Pour cela, les masques récupérés par l'entreprise sont broyés, puis transformés transformées en petites boules de plastique. Elles permettront de fabriquer ces cendriers. Une initiative qui a par exemple été mise en place dans les villages vacances Club du Soleil. Armelle Cizeron en est responsable.
On a mis en place des poubelles à masques dans un ou deux lieux de passage et ça fonctionne bien côté salariés qui ont bien adhéré à la démarche. Côté clients, ils ont encore un peu du mal à les identifier. On a besoin de mieux le faire savoir.
Deux boîtes sont installées dans chaque établissement. Une fois remplies, les masques sont renvoyés à Plaxtil et en échange, les villages vacances reçoivent leurs cendriers de poche.
Ça nous semblait être intéressant de récupérer ces cendriers de poche pour les mettre à disposition de nos clients pour qu'ils puissent, s'ils sont fumeurs, les utiliser en montagne.
L'entreprise Plaxtil propose également de transformer les masques en règles, rapporteurs ou équerres. Ils sont ensuite distribués aux enfants des communes participantes.
50 millions de visiteurs étrangers cet été en France, objectif de Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme. Un vœu pieux selon le président des offices du tourisme au regard des taux de remplissage des hôtels, campings et autres gîtes en juillet. En Haute-Corse, les professionnels ont fait les comptes pour le premier mois de vacances estivales et il n'est guère encourageant. Le reportage de Mathilde Ansker et de Martin Troadec.
Frédéric est fatigué. Il gère l'hôtel central à Bastia. Cette année, il accueille 30% de vacanciers en moins. Pour lui, pas de doute, le coupable, c'est le Covid.
Tout ce que vous perdez sur les mois d'août et juillet, ce sont des pertes irrattrapables. Il y a eu beaucoup d'annulations depuis que la carte a pris des couleurs. À chaque fois qu'il y a des annonces sur la progression de l'épidémie, il y a une cascade d'annulations qui suit. Ouais.
Même constat pour Anne-Charlotte, elle travaille comme réceptionniste dans un hôtel de Bastia. D'ordinaire, à cette période, elle court partout, mais pas cette année. Pour comprendre pourquoi, il suffit de jeter un œil à l'ordinateur de l'accueil.
Alors là, c'est le planning. On voit qu'il y a beaucoup de trous quand même. Alors le mois d'août, c'est pas top. Voilà. Enfin, on a quand même des réservations pour août, mais pas autant que les années précédentes.
Pour d'autres, le bilan est moins mauvais. Cathy gère l'hôtel Napoléon, quelques rues plus loin. Elle a fait un bon mois de juillet, mais ne crie pas victoire.
C'est pas gagné, non. Pas du tout. Rien n'est sûr, en fait. Parce que s'il y a un changement au niveau des règles sanitaires, ben les gens ils vont annuler.
Car tous craignent le mois à venir, le taux d'incidence augmente toujours en Haute-Corse, de quoi représenter un risque pour la suite de la saison.
Le père du petit Dewi est toujours en garde à vue à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. L'homme soupçonné d'avoir enlevé son fils vendredi sera présenté à un juge demain. Une enquête a été ouverte pour trouver les responsables de la rave organisée sur l'ancienne ZAD de Roibon, en Isère. 3000 toughers y s'étaient donné rendez-vous hier soir. Série d'incendies dans le bassin méditerranéen actuellement, notamment en Grèce, dans le nord-ouest du Péloponnèse, dans le sud de la Turquie. Les feux se multiplient aussi dans les alentours des stations balnéaires depuis 5 jours. La correspondance d'Anne Andlauer.
Le maire d'Antalya, Mouritin Bejek, lance un appel à l'aide. Nous brûlons, sauvez-nous. Depuis qu'un premier incendie s'est déclaré en milieu de semaine dans cette province du sud de la Turquie, de nouveaux feux de forêt remplacent aussitôt ce que les pompiers ont eu tant de mal à éteindre. Des incendies ont éclaté dans une trentaine de provinces turques, mais Antalya et sa voisine, Moula, sont de loin les plus touchés. Alors que des habitants continuent de fuir leur domicile, les flammes s'approchent parfois dangereusement des hôtels. À Bodrum et Marmaris, des touristes ont dû quitter leur lieu de vacances au cours du week-end. Des enquêtes sont en cours. Recep Tayyip Erdogan a laissé entendre que certains incendies seraient d'origine criminelle, terroriste, a-t-il même dit. En visite à Antalya, le président turc a remercié la Russie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et l'Iran qui ont envoyé des avions et des hélicoptères. Mais le chef de l'État essuie de vives critiques en provenance de l'opposition qui s'indigne du fait que la Turquie ne dispose pas d'avions bombardiers d'eau. Et ce, alors que les feux de forêt sont de plus en plus nombreux chaque été. Anne Andlauer, Istanbul, RFI pour France Inter.
Et rien que cette année, la Turquie a été ravagée par 133 incendies contre 43 feux en moyenne chaque année entre 2008 et 2020. En Afghanistan, l'offensive des talibans progresse. Trois capitales provinciales sont désormais directement menacées. À quelques semaines du retrait des troupes étrangères, les forces de sécurité afghanes peinent à repousser les fondamentalistes religieux. Les combats continuent à Herat, grande ville de l'ouest du pays, ainsi que dans le sud du pays. Kandahar est encerclé par les talibans. Les précisions à Kaboul de la correspondante d'RFI, Sonia Ghelazi.
Les vols commerciaux au départ ou à destination de Kandahar sont annulés. La piste d'atterrissage a été endommagée après des roquettes hier. L'aéroport est situé dans les faubourgs de la capitale provinciale où les combats font rage depuis plusieurs semaines. La population de la ville de Kandahar, berceau du mouvement taliban, entend chaque jour les tirs que s'échangent les combattants talibans et les forces de sécurité afghanes. Dans la province voisine du Helmand, les talibans sont aussi aux portes de la capitale provinciale Lashkarga, resserrant le rideau sur les forces de sécurité afghanes afghanes qui peinent à contenir l'avancée des talibans. Dans le nord-ouest, à Herat, près de la frontière avec l'Iran, les vols commerciaux ont aussi été suspendus, les combats faisant rage tout autour. Des centaines de familles ont trouvé refuge dans la capitale provinciale. Des milices d'autodéfense appuient l'armée afghane sur la ligne de front. Rien ne semble pouvoir arrêter l'avancée des talibans à un mois du retrait total des troupes étrangères. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI pour France Inter.
Et on jette un coup d'œil sur le ciel.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Le ciel avec Jean-Pierre Hameau de Météo France.
L'anticyclone des Açores campe sur ses positions, toujours trop loin de notre pays pour le moment. Du coup, les conditions météo sont loin d'être estivales. Demain lundi, vous allez retrouver un ciel de traîne dans la plupart des régions, alternant les éclaircies, parfois belles, et les passages nuageux porteurs d'averses. Par évolution diurne, des orages vont se développer en cours d'après-midi, au nord de la Seine et jusque vers la région Grand Est. En revanche, vous conserverez un très bon ensoleillement autour du golfe du Lion, mais aussi de la basse et moyenne vallée du Rhône à la région PACA, sans oublier l'île de Beauté. Côté température, pas de miracle, les maximales resteront au-dessous des moyennes de saison, généralement comprises entre 19 et 25 degrés, avec 19 à Cherbourg, 21 à Lille, 22 dans la capitale, comptez 23 à Strasbourg, Dijon et Lyon, 24 à Bordeaux, 25 à Toulouse. Ça sera un peu plus chaud près de la Grande Bleue, avec 27 à Marseille, 29 à Nîmes et 30 à Bastia.
France Inter, il est 19h25. Le goût de nos mères. Chez Proust, c'est une madeleine. Chez Jamel Debbouze, le pain de sa maman. Et vous, quel est le goût de votre mère? Eva Bétan a posé la question à des anonymes et des célébrités pour raconter des histoires d'amour, de saveurs, de parfums de l'enfance. L'écrivain David Lopez a accepté de se confier. Prix du livre Inter 2018 avec Fief, son premier roman, écrit chez ses parents. Il y est resté tard. Mais depuis quelques mois, il a pris son indépendance et a dû apprendre à faire la cuisine comme sa maman.
Maman, je mets le couvert.
Tu veux de la soupe?
Je veux bien, s'il te plaît.
Vendredi, je crois que je vais nous faire mon île flottante.
Je veux que tu la goûtes, tu me dis si...
Le goût de nos mères.
Est-ce que tout le monde a eu de la sauce?
Oui.
Les légumes aussi?
On sent que c'est fait avec amour. Hein.
Par Eva Bétan.
L'amour.
Rien ne vaut le goût de nos mères, même pour les grands-enfants qui quittent le nid familial. David Lopez a remporté le prix du livre Inter en 2018 pour son premier roman, Fief. Il avait 33 ans, il en paraissait 25, il habitait encore chez ses parents. Le déménagement a fini par avoir lieu, ça y est, il est chez lui et il cuisine les chichards de sa mère.
J'avais annoncé que j'anticiperais. On ferait des petits ateliers, quoi, et qu'ensemble, on cuisinerait ensemble. D'abord, j'observerais, soit en prenant des notes, voilà, puis elle me distillerait tous ses conseils. Et puis, ben, voilà, on procrastine, on remet à demain, et puis un jour vient le déménagement, et puis on l'a pas fait. Et puis jusqu'au moment fatidique où j'ai acheté tous les ingrédients et j'ai dit ça y est, là, je veux le faire. J'avais l'impression qu'en le faisant, j'aurais la même fierté que si j'étais coincé dans une forêt et que j'attrapais une proie dans la nature, quoi. On a fait une vidéo. Voilà, j'ai appelé, et souvent je l'appelle en visio, comme ça j'ai les mains libres et tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu m'as écrit? Y a rien de concret là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un peu, pas trop. Donc on a fait chaque phase les unes après les autres, et j'étais comme avec un tuto sur YouTube, mais vivant, quoi, avec lequel on peut interagir, quoi. Donc c'était super, et dès le premier coup, ils ont été très bons, mes chichas. La technique, au sens le plus large du terme, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, j'avais une tendance à voir la cuisine comme un phénomène d'agencement, mais je prêtais absolument pas attention à toute la petite magie qu'il y a derrière.
Quelle langue parle votre mère? Quelle langue vous parlez dans la cuisine? Elle dit quoi?
Tu mets le chorizo bientôt. Tu mets du cumin, mais pas trop. Grâce à la cuisine, je m'initie à quelque chose qui, en étant plus approximatif, on va dire, il est plus libre aussi.
David Lopez n'est pas un tanguy accroché à ses parents. Habiter chez eux lui a permis d'écrire.
Y a une période de ma vie dans laquelle j'étais un petit peu en errance et où c'est le moment où j'ai décidé de me consacrer à l'écriture, parce que c'était une vieille lubie que j'avais à laquelle j'osais pas donner corps. À un moment où je travaillais de nuit dans un hôtel pour écrire, c'est mon père qui m'a proposé de renoncer à mes envies d'ailleurs et pour me consacrer à l'écriture de manière à ce que j'ai pas à faire autre chose, quoi. Et il m'a mis dans les meilleures dispositions. Enfin, j'ai une reconnaissance envers mes parents qui est sans borne, parce que je sais pas, j'aurais sûrement écrit Fief, mais je serais peut-être encore en train de l'écrire là. Ça reste aussi un roman sur un passage à l'âge adulte qui a beaucoup de mal à s'opérer. Je compte sur eux dans plein de moments de la vie, mais je suis émancipé, quoi. Je veux dire, je fais ma vie. Être proche de ma mère, pour moi, c'est pas une tare, quoi. Je veux dire, en plus, mes parents, c'est mes meilleurs potes, quoi. Moi, je suis pas du tout dans ces effets-là de, t'as vu, je suis pas proche de ma mère, c'est une vertu. C'est de l'amour qu'on se donne, quoi. Pourquoi je me priverais de ça pour faire genre, je suis un bonhomme ou je sais pas quoi.
Le goût de nos mères, une chronique, mais aussi un livre à dévorer, écrit par Eva Bétan et coédité par Stock et France Inter.